Europe 1. La libre antenne, Sana Blanger.
Bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à minuit. Nous sommes ensemble pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Aujourd'hui, Cannes a clôturé son 74e Festival international du film avec son lot de palmes remis aux grands acteurs et cinéastes de notre temps. Tant de rêves se sont exhibés chaque année lors de cette manifestation attendue que je ne décrirai pas mieux que par les mots du philosophe et sociologue Edgar Morin, je cite. Tous les ans, au Festival de Cannes, les vedettes impalpables quittent la pellicule et s'offrent au regard des mortels. Cannes, c'est aussi tant d'histoires qui mettent en relief les situations de la vie comme l'exprime si bien l'acteur Antonio Banderas. Si le cinéma a un point commun avec un timbre, c'est sa capacité à envoyer des messages avec des images. Alors ce soir, rêvons ensemble. Exprimez votre propre histoire de la vie à la libre antenne et laissons chacun d'entre nous se créer ses propres images. Appelez-nous au 3921 pour partager vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur, vos déceptions. Vous le savez, ensuite, ça vous appartient. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qui est la libre antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739-21 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site d'Europe 1 dès demain. L'équipe est prête. Bastien, Kelvin, vous répondront au standard du 3921. Ce soir, c'est Boris Paczynski, qui réalise l'émission. Et puis, avant d'accueillir notre premier auditeur, toute l'équipe se joint à moi pour une pensée de soutien à nos amis belges et allemands qui sont dans la douleur.
Sana Blanger est à votre écoute sur Europe 1.
Nous accueillons notre premier auditeur et c'est donc Xavier. Bonsoir Xavier.
Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes.
Donc Xavier, nous avons terminé l'émission avec vous hier soir.
Oui, c'est ça.
Bon, il y a un peu d'émotion chez moi ce soir quand je pense à nos amis belges et allemands. Donc voilà pourquoi la voix tremble un petit peu.
Je vous remercie de l'avoir dit parce que c'est pour tant de gens qui perdent autant. C'est vraiment un drame fou.
Oui, absolument. Et puis il y a eu aussi votre drame à vous, Xavier, que vous avez commencé à nous raconter hier soir. Hier soir avec, c'est vrai, une émission qui était dédiée à des mamans qui se sentaient isolées, qui ne comprenaient pas pour quelles raisons, est-ce que quelque part elles se sentaient rejetées par leurs enfants. Et puis ça a fait écho chez vous. Et vous avez souhaité nous partager votre histoire de vie.
Voilà, absolument. Donc, c'est le maire, malheureusement. Hier soir, c'est leurs enfants qui prenaient pas nouvelles. Moi, pas du tout. J'ai toujours pris de nouvelles avec ma mère. J'ai toujours fait en sorte de l'aimer comme une mère, de ne pas lui en vouloir par rapport à ce qu'elle avait initié. Et puis en fait, ça s'est retourné contre moi, quoi. C'est comme beaucoup le connaissent, ce sentiment d'avoir un feu en soi, de se consumer de l'intérieur, de vivre des choses, qu'on ferait pas trouver une autre énergie, une adrénaline, quelque chose. Oui. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent par des étapes comme ça. Ça met du temps, c'est un parcours sportif, quoi, quelque part, mais mental.
Oui, c'est vrai. Vous le vous donnez cette analogie du parcours sportif, certains diraient le parcours du combattant.
Oui, je dis sportif, il ne faut pas être trop cru, mais c'est donc, exactement ça.
Donc pour réexpliquer et remettre dans le contexte, une enfance qui s'est très bien passée, hein, en tout cas avec votre papa.
Oui, voilà, j'étais très très heureux, une enfance magnifique, même plus que mes copains de bac à sable, parce que moi j'allais vraiment partout avec mon père et ma mère. On avait il avait équipé un van, un petit peu le van genre l'agence touriste, mais bon, pour barouder dans les forêts et faire des photos animalières. Donc j'ai eu la chance de vivre ça jusqu'à 5 ans et demi. Alors je me réveillais une fois dans les montagnes, une fois au bord d'un lac, une fois dans un bivouac, une forêt où on voyait pas à 5 mètres. Enfin, j'ai vécu une enfance magnifique, vraiment magnifique, oui.
Et jusqu'au drame, en fait.
Voilà. En fait, ma mère entretenait très très ouvertement vis-à-vis du voisinage, vis-à-vis de nous, une relation avec un collègue de mon père, qui était lui dans sa profession facteur. Et c'était un voisin direct, hein, voilà. À un étage près, une entrée à côté, quoi. Et elle vivait cette relation pendant que mon père travaillait. Donc c'était voilà. Et puis ils ont initié ensemble, c'est là où oui. Je voulais en revenir par rapport à hier.
Oui,
ils ont initié ensemble un projet fou.
Ça m'a marqué
et,
ça, je l'ai noté.
Ouais.
Qu'effectivement pour vous c'était un projet commun.
Ah oui, c'est initié.
Mais comment vous le savez, Xavier ?
C'est prémédité. En fait, ça, c'est, je l'ai appris, mais déjà par rapport à mes propres souvenirs.
Oui.
Et pas, surtout, la personne qui m'a énormément ouvert par rapport à ça, c'est ma grand-mère, la mère de ma mère.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et à l'âge où on ne comprend pas et doit se taire à l'enfance, ben on subit et puis voilà, on ne prend pas et puis c'est tout, quoi. Et par contre, quand on arrive à l'âge de 12-13 ans, là, on commence à être un petit peu plus indicatif. Et avec ma mère, je ne pouvais pas parler. Hein. Dès que je parlais de mon père, alors là, c'était une engueulade directe, ouais, c'est fini, c'est histoire depuis longtemps, puis on ne veut pas, voilà. Et puis en fait, avec le temps, la famille, hein, parce que j'ai vu du côté paternel également, et ils m'ont dit que oui, effectivement, ma mère en a fait baver à mon père d'une façon énormissime. Elle l'a trompé en quasiment en place publique. Hein, si elle avait pu faire ça sur un parking d'une cité, elle l'aurait fait, je pense. Hein. Et il met tout ça dans le but réel et concret que mon père se suicide. Elle savait que mon père l'aimait, mais d'une façon inimaginable.
Indéfectible.
Il aurait tout fait pour elle. Et comme je vous disais hier, bah, lui, il était du Sud, donc c'est des gens qui sont assez fiers en plus. Donc quand ils mettent une parole sur un acte, c'est pas pour rien. Mmh. Voilà. Et donc, bah, ils sont arrivés et mon père, un soir, est parti. Et puis, il a dit, je me rappellerai toujours de cette phrase parce que j'en étais témoin. Je l'ai trouvé superbe. Je ne l'avais pas compris. J'ai trouvé superbe, mais je n'ai pas compris la portée. Il est parti en me disant, il avait une grosse corde à son épaule droite. Il est parti avec mon chien, une bouteille d'alcool. Et il a dit à ma mère, ce soir, il y a normalement sur terre. Et ma mère l'a laissé partir. Je ne dirais pas ce qu'elle lui a dit, mais bon.
Et vous aviez 5 ans et demi.
J'avais 5 ans et demi.
Oui.
Tout à fait. Donc, la famille de mon père du côté du Sud, c'est une très grande famille. La disparition, c'est à l'époque de la paix, été signalée de ma mère. Elle a été signalée du côté du sud, à la gendarmerie. Mmh. Donc il y a un quadrillage qui a été effectué. Nous, on est de Fontainebleau, donc c'est une forêt immense. La famille, je crois que c'est 22 personnes qui sont descendues du sud pour leur chercher. Oui. Plus les équipes de gendarmerie, plus des équipes de bénévoles qui n'avaient rien à voir avec ça, hein, mais qui voulaient aider. Les promeneurs, ceux qui allaient chercher les champignons, tout le monde s'y est mis. Et c'est qu'au bout de 21 jours où des promeneurs sentaient vraiment un état de décomposition. Et ils sont pas allés voir, ils ont téléphoné à la gendarmerie et ils leur ont expliqué, ils sont restés eux où ils étaient, ils sont fait rejoindre. Et puis la gendarmerie a découvert mon père et puis mon chien qui protégeait depuis ce temps-là. Voilà.
Vous nous avez également exprimé le fait qu'avec votre mère, c'était très très compliqué puisqu'elle ne vous a jamais dit « je t'aime ».
Jamais.
Est-ce qu'elle avait quand même des gestes des démonstrations quand même d'affection vis-à-vis de vous ? Parce que vous êtes allé, c'était fort hier, hein, également. Vous disiez que vous avez toujours eu le sentiment que finalement elle avait fait des enfants, parce que vous êtes trois, vous avez deux grandes sœurs, que c'était pour la CAF, que c'était...
J'ai deux grandes sœurs avec mon père, et puis ma mère a fait mon petit frère après.
D'accord.
Avec une autre personne, oui.
Et le sentiment que finalement elle faisait des enfants uniquement pour la CAF, pour enfin, mais vraiment pas pour
bien sûr on a fait des Noëls comme tout le monde parce que ma grand-mère y tenait, mes grands-parents y tenaient, ça a toujours été dans ces années-là, vous imaginez, c'était la tradition, quoi, bien sûr. Donc pour tout ce qui était acte comme ça, elle était là, mais je veux dire, non, elle n'a jamais eu, jamais vu en elle les trucs que je vois moi à la télé, de réaction de mère. Non. Et en fait, ça va bien, bien plus loin que ça, puisque à la disparition de mon père, elle nous a reproché. D'une manière assez subliminale, je dirais, de se retrouver seule et qu'il maintenant il fallait qu'on l'aide. Alors, quand elle rentrait du travail, il fallait que la maison soit nickel. C'est nous qui faisions la serpillière, c'est ma grande sœur qui faisait le repassage. Voilà, c'est
ça, faisait
ça
dans
notre
la vie
enfance. Comme il y a quand il se passe des choses comme ça dans une famille et que la personne travaille dans des institutions étatiques comme la Poste, tout ça, il y a des programmes qui sont mis en place et elle a été reprise directement par la Poste.
D'accord.
L'entretien, des choses comme ça.
D'accord. Comment vous vous êtes construit, Xavier ? Parce que vous nous avez dit hier que, voilà, et puis là, même là, que c'était le parcours du... En tout cas, c'était très sportif. Donc, manifestement, vous avez consulté, vous avez fait en sorte de vous développer personnellement.
Non. Consulter, non.
Non, jamais ?
Non. J'ai été quelqu'un de très solitaire. Mes seules activités, c'était me promener justement en forêt, quoi. C'était de faire des trucs comme ça, quoi. Mais mon enfance, école, c'est très différent pour un enfant comme ça, parce que vous avez tous les autres qui vous parlent de leurs vacances avec leurs parents, de tout ce qu'ils font et tout, et puis... vous, quand ils vous posent la question, naturellement, bah, vous racontez. Et puis là, ils vous regardent avec les yeux de malin offri et vous êtes mis de côté, quoi.
Oui, je peux imaginer. Parfois même, vous avez... et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la mythomanie, d'ailleurs, se développe quand on a vécu également ce genre de contexte, hein, où il y a une forme de maltraitance ou d'abandon. La mythomanie se développe également, et puis ensuite on peut aller vers la schizophrénie. Donc c'est en cela que je... Oui, forcément, puisque vous avez tout l'entourage, l'écosystème, quand on était enfant, de ben, moi j'étais en vacances, j'étais chez ma grand-mère, j'étais chez mon grand-père, je suis partie là, et vous, rien. Et puis on se dit, mais mince quoi, j'ai rien à raconter.
Ah ouais, donc je comprends ce que vous voulez dire. Oui, oui, d'accord. Ok, ouais. D'accord.
Vous, ça fait écho également
pas chez moi, mais
kleptomanie, mythomanie,
kleptomanie surtout pas, non. Mais ah, je savais pas du tout, voyez.
On comble un manque.
De toute façon, on est tous obligés de le combler d'une façon ou d'une autre. Et c'est souvent très très extrême. C'est bien. Ouais.
Et dans votre monde, à vous, alors quelle place occupe votre mère finalement? Quelle image a-t-elle?
Quelle image?
Oui.
Et je vous assure, je me suis forcé à l'aimer comme une mère. C'est-à-dire que même si je suis parti très tôt, hein, j'ai signalé hier, je suis parti, j'avais même pas 16 ans. Mais quand même, tout le temps, je suis allé la voir, je lui téléphonais quand elle avait besoin, aucun souci. Mais sans m'en rendre compte, et c'est ces dernières années où je m'en suis aperçu, mais c'est que ça jouait complètement contre moi, quoi. Parce que je me forçais vraiment. Alors que d'elle, je n'avais absolument rien.
Comment est-ce que vous saviez que vous vous forciez, Xavier? Ça s'exprimait comment? Pour vous...
Parce que pour ne pas lui reprocher, ne pas lui en vouloir, accepter les discussions que j'aurais aimé avoir, vis-à-vis de tout ça...
Donc il y avait de la frustration à chaque fois que vous y avait contact ou vous disiez ben, j'aurais aimé qu'elle me prenne dans ses bras ou j'aurais aimé qu'elle me dise voilà mon fils.
Bien au contraire, c'est là où j'ai ressenti qu'elle était complètement coupable et qu'elle avait totalement prémédité ce qu'elle avait fait. Hein.
Vous lui en voulez? Est-ce qu'elle est toujours vivante, pardon, déjà, la première question?
Oui, elle est vivante. Là, maintenant, j'en veux depuis quelques temps, oui.
Est-ce que c'est le feu dont vous parliez, l'image du feu, en début d'échange? Vous disiez, il y a un feu en moi, il y a...
Il y a quelque chose de très étrange qui m'est venu tout de suite quand j'ai appris le décès de mon père, c'est que je me suis senti comme condamné.
Ah oui. Condamné à quoi? À 5 ans et demi?
J'ai mis du temps. Je ne pouvais pas avoir la maturité à 5 ans et demi de me dire je suis condamné, bien sûr. J'ai mis des années à mettre le mot dessus. Mais quand je regardais que tous mes collègues étaient construits par leurs parents, avaient tout ça, moi je n'avais rien de ma mère vivante et de mon père, rien, même rien de eux, même pas une tombe, rien. Donc voilà quoi. Et hier d'ailleurs, je vais continuer à répondre à vos questions et puis je reviendrai à
pour éviter de dégraisser. Ouais, je vous avais dit, il y a eu plein de questions forcément. Alors, ce que je vais vous proposer, Xavier, c'est qu'on fasse une petite pause, petite page de pub, et puis on se retrouve juste après.
Bien
ça vous
sûr.
Va
Moi,
bah, tout de suite.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Sana Blanger est à votre écoute sur Europe 1.
Xavier. L'autre question que je parce que j'en ai plein, c'est est-ce que vos sœurs, vous en avez déjà parlé au sein de la fratrie sur le traitement de votre maman? Est-ce qu'il y a eu des traitements de faveur, c'est-à-dire plus sympa ou plus plus aimante, plus affective, enfin plus dans l'affection avec vos sœurs qu'avec vous, Xavier? A-t-on perdu Xavier? Il semblerait que oui. Bon, on a peut-être un petit problème technique. C'est peut-être, on va envoyer une chanson. Allez, on demande le temps de passer Rihanna avec Diamonds et puis on retrouve Xavier. À tout de suite. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. C'était Rihanna avec Diamonds.
Laissez votre message à Sana Blanger au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Nous avons retrouvé Xavier.
Ah oui, je suis désolé. J'avais un branchement un peu spécial, mais je vous entends beaucoup mieux.
Bon, le principal, c'est que vous soyez avec nous. J'étais en train de vous poser la question qui était est-ce que vous avez eu le même traitement que vos deux sœurs, ou est-ce qu'il y avait donc un traitement de faveur de votre mère vis-à-vis au sein de la fratrie?
Très jeune, oui. Mais je sentais que c'était forcé. Je sais pas comment expliquer, mais parce que en fait, oui, c'était quand il fallait le faire. Mais aussi non, non, les autres journées, c'était un enfer, quoi. En plus, il y a un truc bizarre, et là, je m'en suis rendu compte tout de suite, hein. C'est que moi j'étais petit, on se rend pas compte de ce que c'est que la mort à 5 ans et demi. Mais quand même, j'étais en état de choc de pas voir mon père revenir. Et un jour, on va en course avec ma mère, et puis en revenant, je dis, mais il revient quand, papa? Et elle me dit, ton père, il est mort. En me remettant sèchement mon cahouet. Et je dis, mais c'est quoi la mort? Et puis moi, je pensais à tout ce qu'on avait fait, tout. Je dis, c'est comme un long voyage. Elle me dit, oui, c'est ça. Puis voilà. Voilà comment je l'ai appris. J'ai vu mes deux sœurs comme moi en pleurs pendant 2 jours. Et tout de suite être quasiment comment dire je sais pas comment expliquer ça, mais vis-à-vis de la mon mère, c'était un réunionnais qui faisait de la musique, hein. Et elles ont comme oublié mon père d'un seul coup, et elles se sont mises à l'aimer comme s'il avait toujours été là. Et moi, je comprenais pas du tout. Alors, bien sûr, j'ai vécu avec ce gars-là des trucs de fou, quoi, parce que il savait que j'étais en combat contre lui, que moi, je voulais mon père. Donc, c'était des fois même violent.
Ah oui, parce qu'en fait, leur relation a continué après.
Oui,
Elle
oui, tout
vous l'a
à fait.
imposé pendant combien de temps, Xavier?
7 ans.
7 ans, d'accord. Quand...
Ouais, je me suis même pris un coup de poing sec, un petit coup de poing sec,
Ah
hein,
oui.
au menton, à l'âge de 6 ans, quoi. Et ils faisaient tout pour me rendre la vie impossible.
Il y a beaucoup de ressenti dans votre témoignage. Donc vous aviez le sentiment, vous aviez l'impression, vous pensez que... Est-ce que, Xavier, vous avez déjà eu un
Non,
échange...
non, je vous arrête. C'est pas du ressenti, c'est pas de l'impression, c'est non, je vous parle de fait.
Je parle pas de ce qui s'est passé, je vous parle des sentiments vis-à-vis de votre
Ah oui,
mère.
ah,
Non,
excusez-moi,
mais je vous en
autant
prie, je
pour
me suis
moi.
peut-être mal exprimée. C'était juste de savoir si vous aviez déjà eu une conversation ouverte, franche et claire avec votre mère en lui disant, mais maman, est-ce que tu m'aimes?
Ah, ah non, cette question-là, non, non, non,
Non,
même pas, non,
jamais.
non, 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 jamais, jamais,
Et
jamais.
est-ce que c'est...
On en était tellement loin que non, jamais.
Parce que je me disais que ça pouvait être intéressant, éventuellement, si vous en avez besoin ou si vous en ressentez un jour l'envie de lui poser la question. Mais c'est pas une obligation, hein. C'est juste, voilà.
Oui, oh, non, on n'en est plus là. Je crois qu'on avait passé quelques siècles.
Alors vous en êtes où aujourd'hui?
Alors là, aujourd'hui, il y a eu un changement radical. Malheureusement, j'ai perdu mes deux grands-mères en 2019, là,
Ah,
le
en
même
même temps.
mois.
Moi, je suis désolée.
C'est vrai, voilà, c'est la vie.
Ah ouais. Puis vous aviez
Et bon,
manifestement...
j'en ai profité, elle est partie, elle avait plus de 100 ans. Et je peux dire que bah, tout le temps où elle a vécu, bah, elle nous a soulevés, elle nous a levés, nous, mais bah, notre mère, elle a rien fait, quoi. Et oui, ça a radicalement changé, parce que après le décès, ma mère m'appelle. Et me dit, Xavier, bon ben voilà, tu sais qu'il y a une part d'héritage, oui, je sais bien. Et elle me dit, bon ben maintenant, je vais t'aider parce que bon, tes sœurs elles ont réussi, ton frère aussi, il y a que toi qui. Donc je vais t'aider, je vais t'envoyer tous les mois une somme d'argent. Je dis, non, non, maman, j'en veux pas. c'est ton héritage, tu gardes ton héritage et tu en fais ce que tu veux. Mmh. Et j'ai mis, et elle a pas arrêté de m'appeler, de me dire si, enfin, essayer de me convaincre. Et puis j'ai mis presque un an à lui envoyer mon RIB. Et je reçois 500 euros. Alors, je vous parle d'une maison, c'est pas une maison, c'est une demeure avec un terrain immense en quasi centre-ville de Fontainebleau. C'est quasiment les prix de Paris à 2000 euros près. Hein. Mmh. Il n'y a que elle et mon frère. Et je lui dis 500 euros maman. Elle me dit oui, non, mais surtout t'inquiète pas, je vais t'envoyer bien sûr beaucoup plus et tous les mois. Et en un an et demi, j'ai reçu l'équivalent de 2000 euros, je crois, 2500 euros. Et donc là, j'ai envoyé un message, un texto, et j'ai bien expliqué maintenant comment je la voyais, comment je voyais les choses, et que je voulais plus jamais entendre parler d'elle. Et puis voilà, tout simplement.
Xavier, pour quelle raison est-ce que vous en arrivez à une rupture ? Alors que vous pourriez juste, je dis bien juste, c'est un peu aussi pour, quelque part, pour frotter un petit peu, pour que ça frotte chez vous. Pour quelle raison est-ce que vous ne communiquez pas avec elle ? Qu'est-ce qui vous empêche de lui dire ? Mais, enfin, tu t'es engagé, ou en tout cas, tu m'as proposé.
Je l'ai fait. Je l'ai fait dans le texto. Je l'avais fait un petit peu avant aussi au téléphone en lui faisant comprendre que voilà, moi à l'époque, je gagnais pas beaucoup. J'avais changé de région. J'étais sur de l'intérim. Il fallait que je retrouve un appart rapide. Ouais. Tout coûte cher quand on n'a pas trop de moyens. Et elle le sait très très bien. Et le fait qu'elle tienne pas promesse comme ça et qu'elle fasse endurer la chose, non, là, c'est plus possible. Donc là, maintenant, je suis dans une autre étape où j'ai rencontré deux médiateurs où je leur ai expliqué. Alors, ils m'ont dit, vis-à-vis de votre père, malheureusement, vous pouvez plus rien faire. Il y a prescription. Mmh. Par contre, et c'est là qu'elle est très, très maligne, de m'avoir fait attendre, de me faire attendre comme ça, c'est que j'ai droit à ma part d'héritage que m'a laissé mon père, par contre. Et j'ai pas droit à la part que j'aurais dû avoir en francs à 18 ans. J'ai droit à la part, à 47 ans, en euros, de tout cet argent qu'a travaillé. Et comme par hasard, il y a prescription, j'ai 47 ans, il y a prescription le 13 mars 2022, quand j'aurai 48 ans.
Oui.
Vous voyez où ça va ?
Et vous pensez que tout ça, c'est prémédité également ?
Ah, c'est égal. Oui, c'est tout à fait prémédité. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci. J'ai des preuves incontestables. C'est pas du on dit. J'ai des témoins directs. Qui peuvent le confirmer. Donc là, maintenant, j'ai mis tout ça en procédure. Je pense que vous connaissez peut-être Myriam Benjab.
Comme ça, ça ne me dit rien.
C'est une personne qui anime une radio de façon bénévole. Elle est un peu dans votre registre également.
Oui.
Et une fois, elle travaille autrement. Et elle me dit, elle commence à me parler aussi de discussion, de pardon, de choses comme ça. Et elle me dit, mais tu ne t'en doutes pas, tu ne le sais pas, mais ta mère, elle en souffre aussi. Alors là, j'ai failli exploser de rire, parce que c'est quand même une personne que je connais depuis 4 ans. Je lui en avais jamais parlé de tout ça. Et là, j'ai dit, si je te le dis maintenant, c'est pas pour rien. Et je lui dis un truc, après, je lui dis, une fois, ma grand-mère, elle m'a, je vous l'ai dit hier soir, qui était très pieuse,
oui.
Et mais bon, on peut être pieux de différentes façons, ou être plutôt spirituel. Voilà, je préfère parler de spiritualité. Et elle me dit, je me demande si ta mère n'est pas habitée par le diable. Et là, Myriam m'envoie un message et me dit, Xavier, viens immédiatement à Paris à mon cabinet. Enfin, moi, je suis pas dans l'ésotérisme, tous les trucs comme ça, hein, c'est pas de ça que je parlais, mais non, elle est complètement insensible. Insensible. C'est un fait. Hein. Dès que c'est de l'argent, dès qu'on parle d'argent, bon, alors, c'est fini, quoi. Elle est prête à n'importe quoi.
Qu'est-ce que vous pouvez en déduire, alors, de tout ça? Qu'est-ce que vous apprenez à la fois sur vous et par conséquent sur votre parcours? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez eu le sentiment, lorsque votre père est décédé, que vous étiez condamné.
Oui.
Quelle est finalement la leçon, entre guillemets, ou en tout cas ce que vous retenez de cela, de ce qui vous arrive?
Alors en fait, j'ai fait mes propres recherches parce que sur pas mal de niveaux, parce que des fois les souvenirs peuvent se transformer aussi dans des rêves. On peut être manipulé mentalement d'une certaine façon. Donc j'ai été le plus factuel possible et en faisant ces études, j'ai lu un article d'un scientifique.
Oui.
Et il en était persuadé que quand il y avait un drame dans une famille, que ça puisse être un drame direct comme il s'est passé pour moi, ou un drame indirect sur des arrière-grands-parents, des gens qu'on n'a pas connus ou quoi, ce drame s'inscrit dans l'ADN.
Alors effectivement, il y a eu, je confirme, il y a eu des études qui effectivement confirment que lorsqu'il y a des drames comme un suicide ou autre dans la famille, ça s'inscrit dans les gènes et notamment dans l'ADN et ça se transmet. Alors bon,
exactement, oui.
Ça reste encore nébuleux, mais voilà.
Ah non, c'est pas nébuleux du tout. Moi, je suis pas directement quelqu'un de suicidaire. J'ai déjà voulu, hein,
oui.
Bien sûr. Ça m'est arrivé une fois, j'ai fait comme mon père, sauf que je l'ai fait à pied. J'ai fait 17 km à pied. Bizarrement, la police n'est pas passée, personne ne s'est arrêté en bordure de ville ou sur les routes de forêt. Et j'ai fait exactement ce qu'il a fait. Je suis monté sur c'était un autre endroit, mais je suis monté sur l'arbre. J'ai fait mon nœud, j'avais fait un nœud top pendu avant de faire mes nœuds de basket. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez.
Oui,
c'est ça. Et je me suis assis sur ma branche, mais j'avais plus qu'à me balancer, quoi. Et c'était terminé. J'avais personne autour de moi. Le seul truc qui m'a arrêté, c'est que je savais que si je prenais cette solution, elle était définitive. Et heureusement, j'étais un gamin très curieux. Et je voulais connaître d'autres choses de la vie, d'autres aspects, quitte à en souffrir. Quand on souffre, ça veut au moins dire qu'on vit. Et ça, je l'ai capté tout de suite. Et je suis redescendu.
Alors, puisque vous êtes curieux, j'ai un livre pour vous à vous recommander. Oui.
J'adore lire.
Ouais. Ça peut vraiment vous aider à cheminer encore, Xavier, et on finira là-dessus. C'est un livre de Sanaya Roman, Sanaya comme Sana, Ya, donc Y-A Roman, et qui est « Créer l'abondance, manuel de prospérité ». Et en fait, c'est un livre qui vous donne plein de clés pour à la fois trouver des réponses en soi et en même temps se développer pour aller vers l'équilibre et la sérénité et surtout l'harmonie. Avec tous les polytes traumatisme que vous avez vécu. C'est vraiment un livre qui vous fera beaucoup de bien, vraiment.
D'accord, ok. Ok, ben, je vous remercie parce que je sais que ça apporte beaucoup la lecture et surtout dans le vécu. Alors,
Oui, et surtout par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est encore une deuxième rupture de rentrer dans ces procédures, etc. C'est pas forcément évident. Et voilà, donc il va y avoir, comme dirait Pierre, notre auditeur de mercredi dernier, il peut y avoir encore des bobos au cœur. Donc préservez-vous.
Ah oui, je sais qu'il y en a, mais bon, le principal est résolu. Quoi.
Bon, bah, écoutez, prenez soin de vous, Xavier. Et surtout, rappelez-nous pour nous donner de vos nouvelles.
C'est promis.
Merci
Xavier. Merci à vous et pour tout ce que vous faites. Merci
à très bientôt.
Par contre, est-ce que je peux avoir la Delphine derrière la personne qui... c'est pas Delphine, excusez-moi.
Ah, Kelvin.
Kelvin, pardon.
Bien
Kelvin.
Sûr, alors surtout ne raccrochez pas, il vous reprend.
Oui.
D'accord.
D'accord, merci.
À bientôt.
À bientôt.